c'est Intégral Tour, Christophe Cessieux.
La grande boucle 2014 qui fait escale ce soir à Nîmes au terme de la 15e étape du Tour de France. Escale rapide à Nîmes puisque les coureurs ont déjà quitté la ville pour rejoindre Carcassonne, un peu plus de 2 heures de route. Et Carcassonne où ils se reposeront demain, deuxième journée de repos avant d'attaquer la dernière semaine du Tour de France. Et les Pyrénées peuvent-elles bouleverser la donne de ce Tour de France? Ce sera le thème de l'un de nos débats tout à l'heure avec Cyril Guimard, avec Thierry Bourguignon et avec Luc Leblanc. Mais avant de reparler des débats, on va tout d'abord revenir sur l'actualité sportive de ce jour avec Nicolas Paul-Orsier. Nous sommes à Nîmes au pied des arènes ce soir après cette 15e étape du Tour de France, étape de transition, étape en bois diront certains. Non, on a quand même assisté à pas mal de choses et puis surtout une arrivée au sprint et la victoire, la deuxième victoire depuis le début de ce Tour de France d'Alexander Kristoff, le Norvégien de la formation Katusha qui a avalé quelques mètres seulement de la ligne d'arrivée les deux échappés du jour qui ont bien cru jusqu'à la dernière seconde qu'ils allaient remporter l'étape. Elmiger et Jack Bauer, non pas le héros de 24 heures mais le héros néo-zélandais de ce Tour de France, ont été repris à quelques mètres seulement de la ligne d'arrivée. Ils sont venus, ils sont tous là au pied des arènes, nos gladiateurs romains. J'ai nommé pour commencer Cyril Guimard, le chef de la bande. Bonsoir monsieur le druide.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous.
Un druide en terre romaine hein, ce soir à Nîmes est en pleine forme. Tu as assisté à une belle étape, tu t'es régalé. Étape en bois ou étape sympa?
Pas étape en bois du tout.
Non,
elle a commencé comme une étape en bois, elle a fini comme une vraie étape.
Très bien. Luc Leblanc lui aussi s'est régalé tout au long de l'après-midi, vous l'avez entendu tout à l'heure dans le direct. Il est de retour avec nous après un passage à la télé, il est magnifique ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs. Ça va Lucho? Faut dire qu'aujourd'hui il n'y a pas eu de Lucho mobile, donc il ne s'est pas arrêté pour découvrir les spécialités locales. Donc du coup il est arrivé un peu plus frais que les jours précédents. Ça va Lucho?
Ah bah, très bien, ça va, impeccable. Ah, enfin plus frais, je sais pas, enfin plus mouillé, oui.
Plus mouillé, mais un peu moins le gosier un peu plus sec que les jours précédents. Et puis notre ami Bourgui, on n'est pas très loin de chez lui puisqu'on est à Nîmes, il est à Avignon, il est juste à côté. T'aurais pu nous voir d'ailleurs ce soir.
Hein? Oui, ben oui, mais tu m'avais pas invité.
Oh, tu as besoin d'un. Ah, il a besoin d'un Bristol.
Non, mais bien sûr, tu sais très bien que sans coup de fil, tu ne passes à nulle part. Mais
un petit coup de fil, hein? Je t'aurais décodé.
Non, mais bon, c'est vrai que avec l'émission jusqu'à 13h, ouais. Plus c'était un peu plus compliqué.
Et parce que tu savais que c'était une étape en bois, c'est pour ça que tu n'es pas venu surtout.
Oh non, je savais que tu allais gagner pour la deuxième fois.
C'est vrai, on y reviendra tout à l'heure puisque tu as donné une nouvelle fois le vainqueur d'étape. Tu es un peu le Nibali de l'équipe RMC. Tu domines de la tête et des épaules ce Tour de France au niveau des paris. Messieurs, donc victoire d'Alexander Kristoff, le peloton qui n'a pas fait de pitié, Thierry, qui n'a pas eu de pitié pour Elmiger et Bauer qui se sont fait croquer comme ça à quelques mètres de la ligne. Je ne sais pas si tu as vu la détresse de Bauer tout à l'heure, elle faisait peine à voir. C'est dur, évidemment. Évidemment, pour des coureurs qui ont fait une si longue échappée, de se faire reprendre comme ça. Hein.
C'est toujours dur de se faire reprendre dans le dernier kilomètre, mais là, c'était à 10 mètres. À 10 mètres, il va faire quand même dixième. C'est impressionnant. Tout le monde y a cru, lui encore plus que les autres. Le seul problème, c'est qu'il y a un moment, ils ont joué dans le dernier kilomètre à se regarder, mais quoi, quelques secondes, et ça suffit pour que le peloton lancé à vive allure vienne les absorber. C'est la dure loi du sport, mais les équipes de sprinteurs ont failli se faire avoir là.
Ils ont joué très juste hein, les équipes de sprinteurs aujourd'hui, on le disait tout à l'heure dans le direct, ils ont bien failli se faire avoir. Est-ce que c'est plus difficile en fin de deuxième semaine justement de revenir sur des échappées? On sait que souvent les échappées arrivent à leur terme comme ça quand on avance dans le Tour de France, alors que la première semaine c'est hyper rare. Hein.
Oui, c'est hyper rare, mais les conditions de cette étape, de cette fin d'étape, en bois pour vous, Kristoff.
Mais non, je dis ça pour vous provoquer.
Si, tu le penses.
cette fin d'étape s'est faite quand même sous la pluie. Il fera remarquer qu'il n'y a pas eu une seule chute sur ce final.
Ah oui, il y a beaucoup de moins de chutes également.
Oui, mais ça veut dire qu'on était hyper prudent alors que les hommes de tête prenaient eux énormément de risques sur tous les ronds-points, partout ça pouvait où ils pouvaient gagner du temps sur le peloton, ils l'ont fait. Et ça a un petit peu piégé le peloton parce que il revient, j'ai presque envie de dire c'est presque de la chance de revenir. Parce que quand vous venez chercher le dernier coureur, Thierry nous dit à 10 mètres, on va dire à un petit peu plus, allez, on va dire 20 mètres. ça veut dire que vous avez joué avec le feu. Mais effectivement, on se rend compte que les équipes de sprinters sont peut-être un tout petit peu moins fraîches, enfin tout du moins les équipiers. Il manque aussi un certain nombre d'équipiers dans des équipes parce qu'il y a eu des abandons. Et c'est vrai que l'équipe de Kittel est moins puissante. Mmh. Et c'est ce qui a fait pratiquement, qu'aurait pu faire pratiquement que les échappés arrivent au bout.
Alors, celle de Sagan n'a même pas roulé. Ils n'ont pas voulu se faire avoir une fois de plus, malheureusement.
Une nouvelle place d'honneur pour Sagan, hein. Je ne sais plus combien il en est. Il fait.
Alors, quand on se rappelle le final, aux 3 km, il y a encore 32 ou 33 secondes. Et à ce moment-là, j'ai dit, ça va être très très juste pour aller chercher, parce qu'on perd en règle générale, dans les 3 derniers kilomètres, 10 secondes au kilomètre.
Ouais.
Et en fait, on a repris 11 secondes, une seconde de moins, et bien Bauer l'emportait. Ouais.
Alors, l'équipe de Kittel est moins forte, l'équipe de Sagan n'a pas roulé, Christophe est de plus en plus fort. Alors, on aurait pu croire aujourd'hui, Lucho, toi, en véritable spécialiste des sprints, on aurait pu croire qu'un de nos petits Français, qu'on annonce depuis le début de ce Tour de France, au même niveau que les grands sprinteurs, allait réussir à décrocher la victoire d'étape. Qui avait parié sur Cocard d'ailleurs hier soir? C'est toi, Cyril.
C'est Cyril. Hein,
on y a cru, mais malheureusement, il manque encore un petit quelque chose à nos sprinteurs français, puisque Cocard termine 6e. Arnaud Démare, lui, est beaucoup plus loin. Il a été largué aujourd'hui. Il souffre de problèmes gastriques. Mais bon, il manque un petit quelque chose encore à nos petits Français. Qu'est-ce qui leur manque, Lucho,
le spécialiste des sprints?
Allez, Lucho.
Là, tu me chambres. Carrément. Ce qui leur manque, c'est peut-être la fraîcheur aussi sur la fin de deuxième semaine. Ce qui leur manque sur les premières semaines, c'est peut-être l'équipe qu'ils n'ont pas par rapport à l'équipe de Kittel ou Greipel ou d'autres. Et je crois que nous, on a un problème récurrent dans le cyclisme français, c'est que on n'a jamais fait confiance entre guillemets aux sprinteurs et qu'on n'a jamais mis d'équipiers autour des sprinteurs pour les grands tours. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours des leaders pour le classement général, voire pour le classement général. Donc on joue plus pour le classement général que peut-être faire une équipe autour d'un sprinteur et remporter peut-être deux ou trois étapes sur le Tour de France. Voilà. Après, bon, la deuxième semaine, voilà, c'est l'état de fraîcheur et tout ça, les placements. Après, ils sont tous logés par rapport à la même enseigne. Hein, sur la fin de deuxième semaine, tu regardes, il n'y a plus d'équipier pour Kittel. Sagan, ils n'arrivent plus à rouler. Christophe, il a fait son sprint un petit peu tout seul. Enfin, il avait quand même deux ou trois équipiers quand même. Mais voilà. Je veux dire, après, ça n'empêche pas Cocard de pouvoir bien se placer et tout.
Il était bien placé, Cyril, d'ailleurs, dans le sprint, Brian Cocard.
Oui, il a été bien placé, effectivement, au 300-400 mètres par Kevin Redza. Et puis après, il a été tout seul, alors que les autres gros sprinters avaient encore un équipier. Donc, ce qui fait qu'il s'est fait un petit peu éjecter rapidement aux 200 mètres.
Alors, il faut rappeler aussi que pour nos jeunes sprinters, c'est tout simplement leur premier Tour de France.
Ouais,
ils emmagasinent de l'expérience, Cyril. Mais bon, l'expérience est une chose. Est-ce qu'ils n'auraient pas intérêt, je pense que Jean-René Berdonneau et Marc Madiot vont hurler, est-ce qu'ils n'auraient pas intérêt à partir à l'étranger chercher une équipe capable de leur mettre plein d'équipiers à disposition?
On sait peut-être ce qui va se passer. On en a au moins un qui n'est pas sur le tour, qui peut se retrouver, on le saura dans une quinzaine de jours, peut-être dans une équipe étrangère, c'est Nasser Bouhanni. Alors, oui, la question mérite d'être posée. Est-ce que en France, on a les coureurs d'abord? Est-ce qu'on a les coureurs pour le faire? Car j'ai plutôt l'impression qu'il faudra aller chercher des coureurs étrangers.
Pour faire un train, ce qu'on
appelle. Pour faire un train pour nos sprinters.
Mais comme ils ne vont pas venir.
L'impression, vous avez lu, il y a une info qui est sortie là, sur ce journal à propos de Nasser Bouhanni, il est pressenti chez Cofidis, et Cofidis est en train de de recruter une équipe pour emmener Nasser Bouhanni. Donc ça serait vraiment l'équipe qui mettrait un train, enfin, une équipe française avec un vrai train pour un vrai sprinter.
Mais alors, il faut savoir que la formation Cofidis n'a pas de leader pour le général, alors que la formation FDJ ou
donc
encore la formation
ils peuvent
Rocard,
construire une équipe.
Ah bah oui, non, mais ça, c'est des choix.
Jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que bon, depuis 18 ans qu'ils sont dans le vélo, Il n'y a pas eu grand chose en résultat.
C'est le moins qu'on puisse dire en 18 ans.
Donc oui. Peut-être qu'ils vont prendre conscience que là, bon, il y a un coureur français qui peut devenir peut-être le roi du sprint mondial. Enfin, il en fait partie. Donc autant profiter de l'aubaine qui va partir de la Française des Jeux et faire une équipe autour de Nasser Bouhanni pour l'année prochaine.
Ouais. Tiens, Guillaume a composé le 32-16. Il voulait intervenir dans notre débat concernant les sprinteurs français. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Alors, c'est que bien. Manque-t-il à nos coureurs français? Tu es d'accord avec la Dream Team? Il leur manque surtout une équipe pour amener les sprints?
Oui, je suis d'accord à peu près avec tout ce qui a été dit. Alors voilà, du coup, je crois que je peux raccrocher et dire au revoir.
Mais non, pas du tout.
Absolument.
Non, mais il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est peut-être le ressort psychologique. Parce que finalement, les sprinteurs français commencent peut-être seulement maintenant à croire qu'ils peuvent commencer à rivaliser avec les autres. Tout comme les Français, comme Bardet et Pinot, commencent à croire qu'ils peuvent rivaliser avec les autres en montagne. Mmh. Et le ressort psychologique est finalement la chose qui peut faire la différence. On se rend compte qu'un mec comme Bouhanni, c'est un gars qui... C'est un boxeur, un mec qui n'a peur de rien. Et on a vu ça au Tour d'Italie. Il allait chercher sa victoire, même si Kittel avait abandonné au début du Tour d'Italie, donc ça facilitait un petit peu. Mais voilà, il était présent. Et on se rend compte finalement que... Brian Cotard aussi, il a été bien placé par Kevin Reza aux 450 mètres aujourd'hui. Et le déclic qui fait qu'il aurait pu être dans la roue de Sagan, dans la roue de Christophe, eh bien, il n'était pas là. Il manque encore son ressort psychologique, cette confiance, je pense.
Oui, mais il y a aussi la fatigue. On arrive en fin de deuxième semaine du Tour. Je pense que Luc l'a dit, il y a la fatigue, hein, c'est clair. Hein,
mais enfin, le placement,
oui,
elle est vraie pour tout le monde.
Ouais. Oui, mais Cyril, on le voit d'ailleurs, Greppel, quatrième.
Le placement reste le même.
Il est onzième.
Le placement reste le même pour Cocard. Je veux dire, là, il fait quatrième ou cinquième, exactement comme en première semaine.
C'est vrai, ça. Mais oui, mais il lui manque encore un peu plus de force que ce qu'il avait au début.
Manque peut-être plus de force.
Parce que là, on le voit.
Il lui manque surtout deux ou trois coureurs pour faire en sorte qu'il donne pas un seul coup de pédale sur les 15 derniers kilomètres pour qu'il soit tout le temps à l'abri comme le sont les autres sprinteurs. Là, on le voit souvent. On le voit souvent, pour pas dire presque toujours. On le voit tout seul se battre en sautant dans une roue à droite, dans une roue à gauche. Bon, et il a juste Kevin qui vient lui donner un vrai coup de main dans le final. Mais à 1 contre 5, tu fais pas le poids non plus, quoi, pour emmener. Mais bon, on sait, puisque Bernardo nous l'a dit sur l'antenne, qu'ils étaient pas là pour emmener les sprints à Cocard, qui devait apprendre son métier tout seul. Ah non, mais je reprends ses mots, hein.
Non, mais c'est la vérité, c'est ce qu'il a dit.
Et bon, quelque part, personnellement, je trouve pas ça très, très, très sympa pour Cocard, qui mérite peut-être plus de respect.
Très bien. Eh ben, on verra. En tous les cas, il reste quelques petites chances quand même pour les sprinteurs, Cyril, d'ici l'arrivée sur les champs. Deux étapes, c'est
Oui, les Champs-Élysées, et puis celle d'après les Pyrénées.
D'accord, je croyais que tu allais me dire après les Champs-Élysées.
Non, Bergerac.
Ça, c'est ça pour les critères.
Bergerac, l'arrivée à Bergerac et l'arrivée sur les Champs-Élysées.
Eh ben, on verra. Deux chances encore pour nos petits sprinteurs. On va espérer également que notre Arnaud de Mars
se refasse la cerise demain.
Il a mangé trop de cerises.
Il va falloir qu'il mange beaucoup de riz.
Les Pyrénées arrivent, non pas demain, puisque demain tout le monde sera au pied des Pyrénées pour la journée de repos, mais les Pyrénées arrivent après-demain. Ces Pyrénées peuvent-elles changer la donne et la hiérarchie de ce Tour de France? Ce sera le thème de notre deuxième débat dans quelques instants. Et puis tout à l'heure, nous recevrons Vincent Lavenu, le manager de la formation AG2R, la Dream Team de ce Tour de France.
L'heureux manager.
Eh oui, heureux manager, c'est bien. Ça te rappelle qu'il y a ça?
Oui, ça me rappelle.
Il y a quelques années. Hein.
Eh oui, c'est pas très de rappeler que ça fait quelques années.
Allez, à tout de suite. On revient dans une petite minute pour la suite de nos débats à Nîmes après cette 15e étape du Tour de France.
RMC Intégral Tour.
Et comme tous les soirs, nous vous offrons 5 paires de lunettes de soleil Tour de France. Pour cela, il va falloir répondre correctement à une question super difficile que va vous poser Luc Leblanc. Je crois qu'il ne connaît même pas la réponse. Tu poses ta question, Lucho.
Tu te fous toujours de moi. Alors, quel coureur, homonyme d'un personnage de série télé, a failli remporter l'étape du jour?
Je crois que tu es fait pour la pub. Si vous pensez que la bonne réponse est Jack Bauer, vous envoyez A par SMS au 732-16. Et si vous pensez que la bonne réponse est Rick Hunter, vous envoyez B par par SMS au 7 32 16. Bonne chance, c'est dur, c'est très très dur. C'est Lucho qui fait les questions, hein, donc voilà, c'était pour
si vous tu veux dire. Je peux poser la question un peu plus sexy demain.
Oui, voilà, ça serait pas mal. Ce serait pas mal que tu mettes un peu plus du tien.
Plus sexy. Messieurs. Non, on aura tout entendu.
On aura tout entendu. Il est très sexy, si tu voyais. Il s'est fait une bagnole sur le front hier. Il est rentré dans une porte après avoir cassé la Lucho Mobile avant-hier.
Il a cassé la bagnole, il se casse la porte.
Je vais t'envoyer une photo d'ailleurs. On va mettre la photo sur le compte Twitter d'RMC Sport pour voir à quoi ressemblait hier soir notre ami Luc Leblanc.
Vous êtes tous des ordures.
Mais Lucho, ça te va pas de t'arrêter au bord de la route.
Je vais te donner renfort parce que c'est tous des ordures avec moi là.
J'ai joué au secouriste hier soir à table.
Ah oui, arrêtez les hémorragies terribles. Alors, les Pyrénées, on va revenir à nos débats si vous voulez bien. Les Pyrénées peuvent-elles bouleverser la donne et la hiérarchie de ce Tour de France? Je vais commencer avec toi, Thierry. Toi qui as été un redoutable grimpeur, comme Lucho d'ailleurs, et comme Cyril, hein, vous étiez tous les trois pas mal dans la montagne. Thierry, ton avis, les Pyrénées vont-elles changer la donne? Notamment pour le maillot jaune. Le maillot jaune, non, hein, a priori, ça ne changera pas.
Le maillot jaune, s'il n'y a pas un problème, franchement, de chute ou. Bon, on ne sait jamais, hein, on a vu des maillots jaunes.
S'il est obligé de faire comme Demar, monter dans un campeur.
Oui, on ne sait pas. Le lendemain d'une étape de repos, tout peut être chamboulé. C'est pas remettre du suspense, mais bon, à l'heure actuelle, sur ce qu'il a montré les deux premières semaines, c'est un mec qui est serein, qui prend le temps qu'il faut pour prendre un peu de temps à ses adversaires principaux.
Il prend le temps qu'il faut.
Eh oui. Oui, il prend le. Eh ben, non, tous les jours, il prend quelques centièmes, quelques mieux.
Quelques secondes.
Quand on a fait comme ça, ils ont déjà beaucoup donné depuis le début de ce Tour de France. Là, il y a une étape de plat aujourd'hui, demain la journée de repos, et derrière, on va réattaquer directement les montagnes. Est-ce que les journées de repos comme ça, en troisième semaine, peuvent avoir des effets néfastes sur les organismes?
Bah, bien sûr, hein, on l'a dit. Hein, il y a des gens qui n'aiment pas les journées de repos, qui repartent avec des jambes en carton, et ça peut être chamboulé, hein,
d'autant plus que
le lendemain, mardi, c'est une étape des Pyrénées de suite, donc on est déjà dans le vif du sujet tout de suite. Donc il y a pas le droit à l'erreur. Si on n'a pas assez roulé, ou si on a passé une mauvaise journée pour X raisons, mauvaise récupération, et ben on peut se trouver très mal.
Alors il y en a un qui regrette évidemment que les Pyrénées ne soient pas demain, c'est Jean-Christophe Perrault, qui a montré une belle santé hier dans la montée vers Risoul en accrochant la roue du maillot jaune. Jean-Christophe Perrault, qui aurait bien aimé que l'on reparte demain à l'assaut des Pyrénées, justement, on l'écoute.
Après une journée de repos, on ne sait jamais sur quelle pédale on repart, donc j'aurais presque aimé tout enchaîner, ça aurait été plus simple. Donc là, il va falloir gérer cette journée de repos, et c'est pas nécessairement évident à gérer. Ouais, les jambes sont bonnes, donc j'aurais aimé surfer là-dessus. Ouais. Je pense que je suis dans les clous, il y a ces pavés qui me restent toujours un petit peu en travers. C'est sûr qu'un classement général provisoire serait bien meilleur. Maintenant, je pense qu'il y a encore du chemin dans les Pyrénées, et le contre-la-montre aussi, donc il n'y a rien de figé.
Voilà, Jean-Christophe Perrault qui nous dit que rien n'est figé. On a presque l'impression, Cyril, qu'il attend plus le contre-la-montre, même s'il l'a dit, il a de bonnes jambes, mais c'est peut-être plus dans le contre-la-montre que lui peut effectuer un rapproché au classement général.
Oui, puisqu'il fait parmi les Français, hein, les trois Français que nous avons donc dans le top 6 de ce classement général, c'est lui qui est le meilleur rouleur, c'est incontestable. Il a déjà été, d'ailleurs, à plusieurs reprises champion de France du contre-la-montre, et puis il a fait des très très belles performances dans des épreuves plus relevées même que le championnat de France. Donc lui, le championnat de France, le contre-la-montre est un atout pour lui, mais il ne peut pas se reposer là-dessus, parce que il n'est pas sûr non plus de battre Van Garderen, dont c'est la spécialité. Donc sur la traversée de ces Pyrénées, il va obligatoirement se passer quelque chose. Que peut-il se passer? On a deux arrivées au sommet et on a une arrivée dans le bas d'une descente. Et je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit, alors je ne sais plus si c'est le gauche ou le droit, que dans la descente sur Bagnères de Luchon, il pourrait peut-être se passer quelque chose sur une descente beaucoup plus technique que ne l'était celle de l'Isoar.
Égare évidemment à Thibaut Pinot, dont on sait qu'il n'est pas un formidable descendeur. Tiens, Valentin nous appelle. Valentin, oh, un vieil habitué de l'Intégral Tour. Bonjour Valentin.
Bonsoir messieurs, comment allez-vous?
Oh là là, on est ravis de
vous retrouver. Ça va Valentin, salut.
Après tant d'années.
Tu m'as traité, mon Loutchou, hein. Je suis tout cas avec toi.
Hein.
C'est ta
merci,
zone
merci,
de
terme,
je débarque.
Hein. Oh, j'ai vu ta maman, j'ai vu ta maman l'autre jour. Elle m'a bien soutenu psychologiquement. Elle m'a accompagné à la voiture.
Il en a bien besoin. Ah, ouais.
Loutchou, mais t'es battu ou quoi dans
si on
ce
pouvait
camion,
amener un psychologue d'ailleurs sur le tour pour Loutchou,
c'est mon tour.
Valentin, alors, il va se passer des choses dans les Pyrénées. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu attends, toi?
Bah, faut espérer. Sinon, les gars, on va directement à Paris et on fait la victoire de Nibali. Non, plus sérieusement, il y a quand même un terrain qui est vraiment propice à du mouvement. On est quand même sur un tour qui est particulièrement animé depuis le départ. Faut que ça continue sur cette lancée-là. Après, la course au maillot jaune, elle est un peu faussée ce soir avec 4,40 d'avance sur un Valverde qui paraît un peu sur la phase descendante. Nibali est bien parti pour gagner son premier tour, mais derrière, pour les accessites, je pense que ça va être hyper intéressant. Et comme disait Cyril, l'étape qui arrive à Bagnères de Luchon et que la descente du port de Balès, ça peut faire des dégâts.
Eh ouais, ça va peut-être faire des dégâts effectivement pour Thibaut Pinot, Thierry. Hein, Thibaut Pinot, on l'a vu, même s'il a fait d'énormes progrès en descente, bon, il est quand même moins bon descendeur que Perrault, Bardet ou d'autres. Van Garderen n'est pas non plus un fantastique descendeur. Hein.
Oui, ben là ils vont se méfier, hein, parce que ça a été chaud une fois avec une arrivée au pied en plus. Là, c'est encore ouais, plus dangereux. Mais là, aujourd'hui, j'ai vu quand même Pinot tout seul. Moi, je sais pas. Autant je vois les AG2R solidaires et tous ramener leur leader sur l'avant, les protéger et tout. Pinot était tout seul au milieu du peloton à un moment donné quand ça a borduré après Cavaillon. Et moi, ça me fait halluciner.
Il n'a pas été pris au piège en tout cas.
Non,
hein,
il se battait tout seul dans le vent pour ne pas être pris au piège. Alors je ne sais pas. Pourtant, il a des équipiers qui sont autour de lui, normalement. Je comprends pas. Je le trouve un peu électron libre dans ce peloton.
Ouais,
c'est un
mais
peu
bon,
dommage.
Même s'il n'avait pas d'équipier, il devait bien y avoir un ou deux.
Mais
10 coureurs en dessous de lui, c'est pas
il est anxieux. Si tu le laisses tout seul, ouais, qu'il bouffe du vent...
Ils sont fatigués aussi, peut-être.
Il est leader ou pas? Tu dois protéger ton leader. Une étape comme ça, tout le monde savait que les derniers kilomètres, c'était piégeux avec l'orage
au-dessus. Alors, le problème que tu soulignes, Thierry, c'est important parce que quand tu regardes l'étape de Bagnères de Luchon, tu as la descente qui va sur Bagnères. Ça veut dire que si, admettons qu'il pleuve.
La météo est plutôt pas trop mauvaise.
Il descend beaucoup mieux. Hein.
Ouais, alors donc alors sur le sec là, bon, il voilà. Et donc si
non, mais c'est vrai. En Espagne, il descendait très bien sous la flotte.
On peut penser que Perrault, Bardet et peut-être d'autres, Van Garderen, comme ils savent que Thibaut il a des lacunes un petit peu en descente, quoi qu'il, comme le disait Cyril l'autre jour, il s'est bien amélioré. Mais à mon avis, de toute façon, il y aura certainement la course dans la descente, hein, jusqu'à Bagnères.
Il y aura la course surtout dans la montée.
Il y aura la course dans la montée.
Ils peuvent se retrouver tous les uns derrière les autres.
Alors, par contre, tu vois, tu fais bien de le dire, il y aura la course dans la montée. Donc Thibaut va certainement attaquer dans la montée, basculer, s'il peut basculer un peu devant pour aborder la descente dans de bonnes conditions et se mettre en confiance, parce que de toute façon ça c'est clair, il a pas le choix. Ouais, tactiquement il faut qu'il le fasse.
Pour Thibaut Pinot, tiens, on va l'écouter justement, Thibaut Pinot que Georges Quirino a rencontré tout à l'heure. Thibaut Pinot qui ne veut pas s'enflammer avant les Pyrénées.
Ouais, c'est ça, faut pas s'enflammer. Et faut savoir aussi, je pense aussi en garder, parce que faut surtout pas avoir de jour sans, je pense. Et celui qui aura un jour sans, il sait très bien qu'il sera éjecté du top 5 ou du podium. Donc il faut aussi rester tranquille, rester sage. On m'aurait dit au départ que je serais 4e du tour à la sortie de Nîmes. J'aurais signé et j'aurais jamais cru ça. Donc c'est sûr que le bilan est très bon pour l'instant.
Voilà, bilan très bon, nous dit Thibaut Pinot, qui ce soir est toujours 4e au général avec un retard de 5,06, mais il est seulement 16 secondes derrière Romain Bardet. Tiens, Valentin, si tu devais miser sur un Français sur le podium à l'arrivée sur les champs dans une semaine, ce serait Bardet, Perrault ou Pinot pour toi?
Vous me prenez pas les sentiments là. si le tour se jouait en un contre un sans équipe, je mettrais Pinot. Après, la puissance collective d'AG2R me paraît vraiment supérieure à celle de la FDJ actuellement. Mais c'est vraiment compliqué. Moi je pense que Perrault, s'il est à 1,30 du podium à la veille du contre-la-montre, il finit sur le podium.
Très bien. Donc, a priori, pour toi, ce serait plus Jean-Christophe Perrault que les deux jeunes coqs de ce Tour de France.
Bordé, il va nous faire un super truc. Si, on enregistre tout ici.
On ressortira ça dimanche
prochain. Comment je suis d'accord avec Thierry
Bardet. Merci Valentin.
Moi, Bardet, je suis persuadé que c'est un audacieux. Il va nous faire un super truc dans les Pyrénées.
On posera la question tout à l'heure à Vincent Lagnu, le manager de la formation AG2R, qui va nous rejoindre dans quelques instants. On remercie Valentin. À la semaine prochaine, Valentin. Bonjour, la semaine quand tu veux, évidemment. Valentin qui nous accompagne depuis, quoi? Depuis qu'il était, tout petit la première fois.
Ça fait 14 ans que je suis avec vous, donc ça fait 14 ans.
Et ben, qu'est-ce que t'es vieux,
ça, tu peux le dire.
Michael également nous appelle. Il est au 32-16. Il est pas beaucoup plus vieux que Valentin. Bonsoir, Michael.
Bonsoir, Christophe. Bonsoir, tout le monde.
Salut, Michael.
Moi, je veux dire que moi, je crois que les Pyrénées vont changer la donne, pour trois raisons. Un, on est au bout de deux semaines de course. Les organismes se sont éprouvés. Et vu la météo qu'ils ont eue, on commence à avoir des coureurs fatigués. Donc on n'est pas à l'abri de surprises. Deux, le parcours dans les Pyrénées est quand même très attractif, avec deux arrivées en altitude, plus une très longue étape mardi avec le port de Balaisseaubou. Et trois, cinq coureurs en 1 minute 30 entre la deuxième et la sixième place du général, il va y avoir de la bagarre.
Ouais. C'est quoi ton scénario rêvé pour les Pyrénées, Michael?
Ah là, c'est une bonne question.
T'as bien petit favori là.
Tout simplement à la sortie des Pyrénées, j'aimerais bien voir Bardet et Pinot sur le podium. Mm-hmm. Déjà, qu'on y croit vraiment à bloc.
C'est Jean-Christophe qui va être content.
Ouais, mais je trouve comme déjà Jean-Christophe Perrault, c'est le plus loin déjà. Les cinq.
Non, mais c'est celui qui roule le mieux.
Je pense que Jean-Christophe Perrault, pour moi, il a pas assez de, comment dire, de fougue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais, de giclette, de.
Enfin, c'est le seul qui a pu contrer Nibali. Ouais.
Je pense que Michael.
Mais il a peut-être pas assez d'initiative. Il prend peut-être pas assez d'initiative à l'inverse d'un coureur comme Pinot qui attaque 3-4 fois dans
le champ. Mais remarque, est-ce que tu crois qu'il doit prendre l'initiative aujourd'hui?
Michael, c'est quand même lui qui prend l'initiative dans la descente de l'Isoar, lui qui prend l'initiative.
C'est une initiative collective, Cyril.
Oui, non, mais attends, il y va.
Oui, mais c'est collectif, c'est l'équipe qui avait décidé ça le matin.
Mais c'est pas parce que c'est décidé que.
C'est un super descendeur.
Ça aurait très bien pu être Bardet qui lance l'offensive dans la descente avec Perrault dans la roue.
Non, c'est bien preuve que Bardet est le leader de l'équipe.
Ah ben alors voilà, toi tu affirmes donc que Bardet est le leader de l'équipe. Eh bien on sera avec Vincent Lavenue dans quelques instants, on lui posera la question. Poseras la question, Thierry, mais Bardet est le leader de l'équipe. On va voir ce qu'il va te répondre.
Qu'est-ce
Vincent.
Qu'est-ce que tu fous, Vincent,
dans quelques instants. Il sera avec nous, pour l'instant il est sur la route entre Nîmes et Carcassonne, puisque tous les coureurs et toutes les équipes sont en train de faire la route avant d'aller se reposer à Carcassonne. Merci Michael.
Au revoir.
Évidemment, le 32-16 est ouvert si vous voulez poser une petite question au manager de la Dream Team de ce Tour de France. La Dream Team vélo, c'est Vincent Lanu, manager de la formation AG2R. Deux garçons placés dans les six premiers au général à une semaine de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Ça, c'est un véritable rêve éveillé que vit Vincent Lanu. Ça fait tellement d'années qu'il attend ça qu'aujourd'hui, c'est son jour de gloire et également le jour de gloire de ses coureurs. Mais pourvu que ça dure, comme dirait l'autre. Allez, on se retrouve dans un instant pour évoquer avec Vincent Lanu cette dernière semaine du Tour de France. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Sessieux.
Toujours à Nîmes, ce soir au terme de la 15e étape du Tour de France. Nîmes que les coureurs et que les équipes ont quitté, direction Carcassonne où tout le monde va pouvoir se reposer avant d'attaquer les Pyrénées dès mardi. Alors, vous le savez, il y a une équipe qui enthousiasme tout le monde depuis le début de ce Tour de France. Elle est d'ailleurs en tête du classement par équipe et elle compte dans ses rangs deux garçons, deux Français classés, très bien classés au général. Romain Bardet est 3e et Jean-Christophe Perrault 6e du classement général. Et bien nous sommes ce soir avec le manager de la Dream Team du Tour de France, Vincent Lavenu. Bonsoir Vincent.
Oui, bonsoir.
La Dream Team du Tour
de
France.
Bonsoir Vincent.
Bonsoir. Ça fait rêver.
Bonsoir
ça.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Ça fait rêver d'être le patron d'une Dream Team sur le Tour de France depuis tant d'années, depuis 23 ans je crois que tu diriges cette formation. C'est un bonheur aujourd'hui, c'est que du bonheur, non?
Oui, enfin, Dream Team, bon, je sais pas, on est en tête du classement par équipe du Tour, c'est vrai que
quelque chose que l'on recherche depuis un certain nombre d'années, puisqu'on a toujours été quand même assez régulier. On a terminé deuxième, troisième, quatrième du classement par équipe. Mais c'est vrai que c'est un objectif important pour nous. C'est que c'est un élément aussi qui plaît à notre partenaire. Voilà, donc si une fois on pouvait être présent à Paris sur les Champs-Élysées avec l'ensemble de l'équipe, c'est quelque chose qui nous ferait évidemment très très plaisir. Mais bon, en dehors de cela, il y a aussi, c'est vrai, des leaders qui sont à l'avant et qui pèsent sur la course. Donc c'est évidemment très plaisant d'être à ce niveau-là sur le Tour de France.
Alors pour le patron de l'équipe AG2R, la mondiale, qu'est-ce qui ferait le plus plaisir dans une semaine sur les Champs-Élysées ? Remporter le classement par équipe ou placer un ou deux hommes sur le podium, Vincent ?
Est-ce que vous savez que je suis très gourmand ?
Les deux.
Ça se voit un petit peu, mon Vincent, hein, quand même. Hein.
Mais non, mais il va pas choisir, non ?
J'ai des origines normandes, donc vous voyez.
Il a dit les deux, Vincent.
Maillot blanc, podium et premier par équipe. Et voilà, c'est tout.
Voilà. Et si on peut rajouter une deuxième petite étape pour finir en beauté.
Voilà. On rappelle que Vlel Kadri a déjà amené une victoire d'étape aussi. Pour l'instant, tout va bien. Alors, Vincent, tout à l'heure, Thierry Bourguignon voulait te poser une question. Il affirmait même quelque chose. Alors, Thierry, est-ce que tu vas affirmer également de
ne reprends pas ta veste, Thierry, vas-y, dis ce que j'ai dit tout à l'heure.
Est-ce que je suis un mec à avoir ma langue dans la poche ? Non, Vincent. Simplement, pour moi, entre tes deux leaders, entre parenthèses, Romain Bardet et Jean-Christophe Perrault, pour moi, je disais que Romain Bardet était pour moi mon leader désigné. As-tu déjà défini un leader plutôt qu'un autre ?
Pas du tout, parce qu'on se refuse à se désigner un leader, dans le sens où aujourd'hui, nos deux coureurs sont au-devant et c'est la différence se fera à la pédale, comme on dit dans notre monde, dans l'école, parce que le classement général va se faire dans l'école encore. Il y a trois étapes de importantes dans les Pyrénées et il y aura forcément des attaques. Est-ce qu'il y aura Nibali qui va vouloir encore enfoncer un peu plus le clou ? Je le crois, parce que c'est un coureur qui est attaquant de nature et donc qui va vouloir peut-être en rajouter une petite couche. Et donc on verra si on va barder, si c'est Perrault qui naturellement se retrouvera à l'avant. Voilà, donc je pense qu'on n'a pas à choisir aujourd'hui, c'est simplement le sport qui désire tout ça. Et maintenant on verra à un moment donné ce qui se passe sur le terrain, si effectivement on a besoin de sacrifier l'un ou l'autre. On en parlera à ce moment-là et comme ce sont deux garçons puisqu'ils s'entendent très bien et qu'il n'y a aucun problème de leadership, je pense qu'à un moment donné ils sauront prendre une décision s'il y a besoin de la prendre. Mais d'abord je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de prendre une décision comme cela parce que je crois que le terrain va décider tout seul.
Vincent, est-ce que c'est facile de faire cohabiter justement deux leaders dans la même équipe, hein ? C'est assez rare d'avoir deux garçons placés pour le général. Alors, tu le disais il y a quelques instants, ils s'entendent très bien. Mais on sait aussi que les champions ont de l'ego. Est-ce que il n'y a aucun point de friction entre les deux garçons ?
Non, pas du tout. Ce sont deux garçons qui s'entendent bien, ils sont très intelligents. Aucun souci par le passé et j'en vois pas poindre à l'horizon, donc on n'a pas du tout d'inquiétude là-dessus. Bien sûr que les sportifs de haut niveau sont des gens qui ont un ego, mais il y a quand même des garçons qui sont au-dessus de la moyenne et qui ont bien compris quel était l'intérêt aussi de l'équipe. Voilà, donc j'ai vraiment aucun souci dans ce domaine.
Alors, et Vincent, imaginons qu'un coup de Trafalgar sur les étapes pyrénéennes, tes deux leaders un peu piégés, qui va rouler pour l'autre ? C'est là.
Vous n'aurez pas ma réponse.
Parce que c'est facile de dire ça maintenant.
C'est le terrain qui décidera encore une fois. La décision, ce type de décision doit être prise à un moment donné. Ça va être une décision qui sera prise rapidement et en accord avec les deux coureurs. Voilà.
Ouais, mais très rapidement alors.
Ah ben très rapidement.
piste, on va pas tergiverser pendant un quart d'heure, hein, sinon c'est trop tard. Mais voilà, il y aura peut-être un des deux qui sera moins bien, ou alors peut-être que les deux vont collaborer pour essayer, voilà. Mais je vous le dis, ça c'est des scénarios qui peuvent effectivement, c'est pas le genre de scénario qui nous angoisse et qui nous inquiète, quoi, voilà.
Aujourd'hui,
le fait d'avoir deux leaders, je trouve que c'est plutôt une assurance, aussi bien pour nous que pour eux, parce que d'abord ça répartit, on va dire, les charges sur les épaules des deux coureurs, plutôt que d'avoir toutes sur un seul. C'est beaucoup plus rassurant et pour eux et pour nous. Puis bon, il y a quand même eu des tas de cas où il y a eu des coureurs qui ont terminé premier, voire même deuxième du classement général sur le Tour de France, il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, même si effectivement il y a des problèmes d'ego entre les deux, ça n'a pas pénalisé l'équipe puisqu'ils ont fait un premier, deuxième du classement général.
On rappelle que Vincent Lavenu, le manager de la formation AG2R, la mondiale, nous fait le plaisir d'être en direct avec nous. Il est en direction de Carcassonne. Cyril Guimard, qui a longtemps amené des vainqueurs du Tour sur les Champs-Élysées, il y a de cela quelques années, a une question à poser à Vincent. Ou alors peut-être un conseil, je ne sais pas.
Non, des conseils. Ou alors on fait un contrat. Puis... mais un contrat retraite, hein, à la mondiale. Oui, alors il y avait une question que je voulais poser, mais tu y as répondu en étant, tu l'as souligné toi-même, ou révélé que tu étais un petit peu normand aussi. Oui, dans les choix que tu seras par obligation, parce que on sait comment l'histoire s'écrit en règle générale, donc il y a des moments où tu vas être amené à prendre un certain nombre de décisions. Parmi les critères qui vont t'amener à prendre ces décisions, est-ce que le contre-la-montre, parce qu'on parle des Pyrénées, mais il y a aussi le contre-la-montre, est-ce que le contre-la-montre rentrera effectivement dans tes réflexions?
Oui, notamment sur la dernière étape de montagne, parce que c'est un peu là qu'on pourra commencer à faire un premier bilan. On verra effectivement où on en est. Est-ce que nos coureurs seront deuxième et troisième du général? Est-ce qu'ils seront deuxième et septième? Est-ce qu'ils seront quatrième et... dixième, ça c'est difficile encore à dire. Je pense que la hiérarchie s'est bien établie, notamment lors de l'étape d'hier. On a vu quelques coureurs perdre un petit peu pied, hein. Je pense notamment à des Vandenbroek ou des Mollema. Voilà, donc à l'issue de la deuxième étape de montagne des Pyrénées, on en saura un peu plus. Et effectivement, arrivera quelques jours après le chrono, donc ce sera un élément qu'on devra intégrer dans la prise de décision future, bien sûr.
Mmh. Oui, parce qu'il y a entre Bardet et Jean-Christophe, il n'y a que 1 minute 15, et 1 minute 15 sur 54 km contre la montre, par obligation, on ne peut pas l'ignorer.
Ouais. Vincent, un petit mot sur la guéguerre, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup ici, évidemment c'est tellement rare, ça fait tellement d'années qu'on n'a pas eu ça, mais deux jeunes Français qui sont quasiment du même niveau, Thibaut Pinot et Romain Bardet, il y a une vraie rivalité entre les deux pour être le premier des jeunes coureurs français.
Ah bah il y a une rivalité saine et sportive, bien sûr. Ce sont deux garçons du même, on va dire, de même tempérament, de la même génération, qui vont se confronter pendant de longues années sur le même terrain, puisque sont tous les deux grands grimpeurs. Et là, en l'occurrence, il y a ce fameux maillot blanc. Donc voilà, le meilleur l'emportera tout simplement. Ce sont deux garçons qui ont beaucoup de caractère, qui ont envie de bien faire, qui sont très très professionnels. Voilà, donc le terrain, encore une fois, va en décider. Et puis voilà, il faudra respecter le choix, le résultat tel qu'il sera décidé par le sport, tout simplement. Maintenant, moi je sais que on a une grande confiance en Romain, on pense qu'il a cette capacité, mais évidemment Pinot est un adversaire coriace, et de toute façon on le respecte, parce que d'abord c'est un garçon qui est respectable, son équipe est respectable, et avant tout on fait du sport, donc c'est le sport qui doit l'emporter.
Est-ce qu'on est parti pour une rivalité à la Anquetil-Poulidor, Vincent Lavenu?
Ça te plaît, ça, hein? Ça te plaît.
Oh, mais ça, on verra bien dans le temps. Vous savez que la rivalité Anquetil-Poulidor, c'est plus les médias qui l'ont fait que la réalité. Après, voilà, chacun, je sais, nous, ce qui nous concerne, c'est, on a Romain dans cette équipe, c'est un formidable coureur, plein de classe, plein de talent, qui a, à mon avis, encore, depuis 3 ans qu'il est professionnel, il progresse à vitesse grand V. Où va s'arrêter sa progression, on n'en sait rien encore. Ce qu'il nous a démontré aujourd'hui, c'est qu'il est capable, dès sa troisième année, de jouer avec les meilleurs coureurs du monde. Voilà, donc il faut qu'il gagne encore en puissance. Mais
La façon dont il conçoit son métier avec autant de professionnels fait que de toute façon, il va encore passer des paliers.
Très bien. Merci Vincent d'avoir été avec nous. Vous êtes arrivé à Carcassonne ou pas encore là?
Pas encore. On est encore dans le bus là. Je pense qu'on ne devrait pas trop tarder.
Très bien.
Vincent,
est-ce qu'il y a
bravo,
du trafic
hein. Grand bravo.
Allez, merci, à bientôt.
Merci Vincent, à bientôt. Bonne dernière semaine de Tour de France. L'équipe AG2R, la mondiale, qui donnera une conférence de presse demain, avant évidemment d'aborder la montagne. Serein, hein, Vincent Lavenue, messieurs, comment vous le trouvez là?
Serein, appliqué dans ses réponses.
Oui,
non, il
balance pas non, oui. Oui, non, à un moment donné, il va être obligé de le faire, hein, de toute façon.
Évidemment. Allez, messieurs, c'est l'heure des paris.
Les paris RMC. Tour de France.
Avec Benji, qu'on salue.
Salut, messieurs.
Benji. Salut, Benji.
Et voilà, regarde la voix. L'enthousiasme
qui est gentil, ce
de
Benji.
Thierry Bourguignon. Oh là 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 là. Qui a encore une fois gagné aujourd'hui, c'est ça, l'histoire?
Oui, on va réécouter. J'ai quand même fait ma part de boulot dans l'échappée tirée, on est d'accord.
Oui. On a fait un coup de bordure.
Voilà.
Ça les a mis dans le vent. Et là, on est tranquille.
Allez, on écoute. Moi pour la cote et pour essayer de revenir sur Bourgui, je vais jouer Christophe, la cote est à 15.
Je suis un peu
bon alors,
Benji,
tu le crashes le machin.
Eh ben ouais, Benji, je joue au Christophe.
Le jackpot, messieurs dames, nous avons décroché le jackpot.
Le jackpot pour
15, la cote de 15.
Ah ouais, là.
J'ai mis 20 euros et imaginez 20 euros.
20 euros, ouais, c'est ça. Ouais,
multiplié par 15.
Bon, alors là, c'est comme Nibali, on le reverra plus jusqu'aux Champs-Élysées.
Ah, il y en a un qui est dans ma roue quand même.
Oui,
hein.
je suis là quand même. Ouais. Je suis passé évidemment en positif. Moi aussi, je suis contrôlé positif sur les paris.
On est deux.
Bon, Lucho, il en est où là dans le classement des paris? Il est toujours troisième.
Lucho, il est toujours maillot à poids. Bourgui a le maillot vert et le maillot jaune. Le maillot à poids aujourd'hui, il n'y avait pas de points à prendre. Je signale qu'entre Thierry Bourguignon premier avec plus 140 euros de bénéfices et Christophe Cessieux moins 150 euros, il y a 300 euros de différence.
Ah ouais, quand même.
La route est longue, mais pour les perdre, hein, 300 euros, ça va être dur.
Bon, et on va Cyril, il y a plus qu'une chose à faire, c'est jouer des mecs incroyables, impossible.
Eh mais c'est le tour des audacieux, les gars. Ouais,
le tour des audacieux.
Mais oui. Ouais, on aurait pu se contenter de jouer les vrais, les Kittel. Ben non, nous on a pris des risques.
Très bien. Eh ben bravo messieurs. Moi je dis bravo. J'abandonne le Tour de France des paris. Vous jouerez sans moi jusqu'à l'arrivée sur les Champs-Élysées.
Voilà, tu dois rester jusqu'au bout.
Non, on a le droit d'abandonner quand même, non?
Non, on n'a pas le droit.
Très bien. T'es un ancien vainqueur au palmarès des paris RMC, Christophe, tu honores un petit peu.
Oui, les anciens vainqueurs de temps en temps connaissent des années sans. Merci, merci Benji.
Bonne soirée messieurs.
À demain.
Bonne soirée.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Voilà, Cyril va nous laisser. Il va partir vers Carcassonne.
Alors, qui va se lever le plus tôt demain matin? On n'a pas parié.
On verra.
Qui va se lever
le plus tôt? Je pense que c'est Fred Adam qui va se lever le plus tôt demain matin, vas-tu? Hein, parce qu'il travaille tous les jours, ce garçon-là. Nous, on va vous laisser, messieurs Bourgui et Lucho, entre les mains expertes de Marcel Fernandez.
Bien sûr, Carcassonne, donc.
À mardi, Christophe, j'allais dire.
Et oui, à mardi. Demain, journée de repos pour tout le monde, hein. Journée obligatoire.
Ouais.
C'est comme ça que ça se passe.
Ah ouais? Il n'y a pas d'émission, il n'y a plus rien.
Il y aura quand même l'intégral tour. Fred Adam et toute la Dream Team. Christophe et la Dream Team, elle reste là en tout cas. Luc Leblanc, Thierry Bourguignon dans quelques instants dans l'Intégral Sport pour répondre à vos questions au 32-16 ou sur le Twitter, hashtag RMC Live, envoyez vos réactions. N'hésitez pas, on sera aussi avec le maire de Lens à 20h30 parce que à Lens il se passe beaucoup de choses avec Gervais Martel qui vient d'annoncer que les 10 millions promis par Mamadov, l'actionnaire majoritaire, ne serait pas là. Puis on essaiera aussi d'aller prendre des nouvelles du nouveau champion du monde à l'épée, Ulrich Robéry, en escrime champion du monde du côté de Kazan en Russie. À tout de suite.